Voici le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric et bonne année à toutes et à tous. À la une de l'actualité, l'esprit Charlie, qu'en reste-t-il 3 ans après cet attentat contre l'hebdomadaire satirique qui avait fait 12 morts? Une chose est sûre, le journal peine à se relever, nous dira Alexandra Kuhn. Un samedi placé sous des indicateurs de couleur orange, vigilance orange pour les crues dans 14 départements. Et alors que 3 personnes sont toujours portées disparues, orange sur les routes de Rhône-Alpes également pour le retour des vacances. Pas de voyant vert, mais plutôt orange lui aussi pour le chef de l'État turc venu chercher hier à Paris une promesse d'adhésion à l'Union européenne et reparti avec une proposition de partenariat. Côté sport, c'est aujourd'hui le coup d'envoi de la 40e édition du Dakar, enfin du Dakar sud-américain. Et en football, celui des 32e de finale de la Coupe de France. Rendez-vous dans le journal des sports présenté par Sébastien Hazard à la fin de ce journal.
France Inter.
Il y aura demain 3 ans de cela, jour pour jour, les frères Kouachi pénétrait dans les locaux de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, assassinant 12 personnes dans un acte terroriste qui allait devenir le premier des attentats de janvier 2015 en France. Alors que des hommages vont être rendus dès aujourd'hui à la mémoire des victimes de Charlie et que des débats vont débuter à la mi-journée sur la laïcité et la liberté d'expression, 3 ans plus tard, Charlie Hebdo peine à se relever, Alexandra Kuhn.
3 ans après l'attentat, difficile de dire que Charlie Hebdo va bien. L'extraordinaire élan de solidarité qui avait suivi le drame du 7 janvier 2015 s'est essoufflé. Les 8 millions d'exemplaires du numéro des survivants, sortis une semaine après la tuerie, ne sont plus qu'un lointain souvenir. Les ventes en kiosque tournent désormais autour de 30 000 exemplaires, voire 40 000 certaines semaines. À l'image de l'ex-gouverneur de la Californie, Arnold Schwarzenegger, beaucoup n'ont pas renouvelé non plus leur souscription. Montée à 200 000 il y a 3 ans, les abonnements stagnent aujourd'hui autour de 30 000. Rongés par des dissensions autour de l'argent et de la nouvelle direction du journal, beaucoup de chroniqueurs ont claqué la porte. L'urgentiste Patrick Peloux, la journaliste Zineb El Razoui. Quant au traumatisme collectif, pourra-t-il un jour être surmonté? Dans le dernier numéro, l'un des membres de Charlie confie « J'ai peur sur le trottoir, quand je suis à l'intérieur, peur quand j'entends à la table de la rédaction des bruits que je n'identifie pas. J'ai peur car je suis persuadé de réentendre un jour le cliquetis des calaches. »
De l'attentat Charlie Hebdo, de ses enseignements, de ses conséquences, vous y reviendrez à 8h20, Eric Delvaux, puisque l'un de vos invités sera justement le président de l'association des médecins urgentistes, Patrick Peloux.
Retour également ce matin sur l'assassinat du père Hamel, c'était à Saint-Étienne-du-Rouvray en juillet 2016. Avec plusieurs questions ce matin, des erreurs ont-elles été commises et cet attentat aurait-il pu être évité?
C'est en tout cas pour répondre à ces questions que le parquet de Paris a décidé hier soir d'ouvrir une enquête préliminaire, ceci après les révélations du site d'information Mediapart. Ce dernier affirme que la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris aurait en fait négligé les menaces pesant sur le prêtre avant de tenter de dissimuler ce raté. Une réactivité saluée par l'avocat du couple Coponnet, présent dans l'église au moment du drame et dont le mari avait été grièvement blessé, maître Mehana Mouhou, joint au téléphone par Delphine Garneau de France Bleu Normandie.
Le but du renseignement antérieur, c'est de prévenir le terrorisme. Et si on laisse filer et qu'ensuite on camoufle et qu'on dissimule des preuves, ça c'est une hypothèse comme toutes les hypothèses, elles sont supposables. Mais du point de vue du parquet, et je suis heureux que M. François Molins, lorsque je lui ai adressé ma demande d'ouverture d'information, dans les 6 heures, il a ouvert cette information. Et il a élargi d'ailleurs. C'est très bien. Je pense qu'à l'intérieur du renseignement de la préfecture de police, les langues vont peut-être se délier. Nous allons avoir une instruction où certains vont certainement parler. Moi, mon rôle principal, c'est surtout de savoir si l'assassinat du père Hamel et le traumatisme des victimes à l'intérieur de cette église le 26 juillet auraient pu être évités.
On en vient à la tempête Eleanor et ses conséquences. Alors que 14 départements restent en vigilance orange pour les crues, on dénombre au moins 5 morts, 27 blessés et 3 personnes toujours portées disparues. Serge.
Oui, 3 personnes pour qui les recherches vont reprendre dans quelques instants. Il y a cette policière de la brigade fluviale de Paris disparue dans la Seine lors d'un exercice, mais aussi 2 seniors portés disparus également en Bourgogne-Franche-Comté. Philippe Renaud.
L'un de 81 ans à Lucenay-l'Évêque en Saône-et-Loire et l'autre un ressortissant allemand de 70 ans à Rouvres-sur-Aube en Haute-Marne. Les 2 hommes étaient chacun près d'une rivière en crue lorsqu'ils ont disparu. En Saône-et-Loire, juste avant de passer à table, l'octogénaire était allé surveiller la montée des eaux juste devant chez lui, à 30 mètres de sa maison. Mais il n'est jamais rentré. Sa femme a donc alerté les gendarmes. Et en Haute-Marne, l'homme de 70 ans qui a du mal à se déplacer serait tombé dans un réservoir en ouvrant une vanne pour éviter l'inondation de son terrain. Dans les 2 cas, les recherches qui ont été arrêtées pour la nuit vont reprendre ce matin.
Philippe Renaud de France Bleu Bourgogne. En dépit d'une légère accalmie sur le front des pluies, 14 départements de l'ouest et de l'est de la France restent en vigilance orange en raison des risques d'inondation dus aux crues. À noter enfin une mise en garde sur les routes des Alpes cette fois-ci, où des milliers de vacanciers sont attendus tout ce week-end, ceci en raison des fins de congés scolaires.
Et puis cet autre sujet de préoccupation, c'est la grippe. La grippe qui pourrait atteindre un pic durant les semaines à venir, et vous savez de quoi on parle en ce moment, c'est
Oui, tout à fait, je vais essayer de continuer à tenir d'ailleurs. Alors particulièrement en virulente l'hiver dernier, avec au total quand même plus de 14 000 décès, autant que la canicule de 2003. La grippe est cette année encore au centre de toutes les attentions. Les cas recensés par les médecins du réseau d'observation Sentinelle sont en forte progression, classant notamment la Dordogne en niveau rouge. Pourtant, dans les cabinets médicaux du département, ce n'est pas encore la bousculade comme a pu le constater Corinne Duval.
Alain Godard, médecin généraliste d'Athur, n'est pas encore débordé par les cas de grippe. 7 cas en une semaine, mais ça devrait venir et très rapidement.
Là, je pense qu'avec la rentrée des classes, là, on va avoir l'explosion avec les maternelles qui vont reprendre. En général, ça commence toujours par les maternelles et les écoles primaires. Ils vont passer aux grands frères et aux grandes sœurs dans les lycées et ensuite ça va dans les administrations et les entreprises. Là, on voit les chiffres qui montent d'après le réseau Sentinelle. Ça monte comme l'an dernier, sauf que là, c'est en janvier. L'an dernier, c'était en décembre.
Pas de panique si vous avez les symptômes, fièvre, nez qui coule, fatigue, du paracétamol fera l'affaire et attendre que ça passe en évitant de la transmettre.
Mais vous savez ce qu'il vous reste à faire, mon cher Serge.
Merci, oui. À l'étranger, en France en l'occurrence, pas d'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne, mais un partenariat avec l'UE. Voilà en quelque sorte ce qu'Emmanuel Macron a proposé hier à son visiteur du jour, le président turc Recep Tayyip Erdogan. Les deux dirigeants qui ont par ailleurs marqué leur désaccord sur la question des droits de l'homme, Claude Dibal.
Si Recep Tayyip Erdogan était venu chercher à Paris un nouveau souffle pour l'adhésion de la Turquie à l'Europe, c'est raté. Cela fait 54 ans que le processus a commencé et à peine la moitié des chapitres de discussion ont été abordés sans qu'aucun point d'accord n'ait été trouvé. Les Turcs, dit le président Erdogan, en ont assez d'attendre et de supplier. Supplier les 28 qui s'abritent derrière les atteintes aux droits de l'homme de la Turquie pour geler le dossier. L'exaspération est légitime et les torts partagés, a semblé reconnaître Emmanuel Macron qui propose lui de sortir de l'hypocrisie, selon ses propres termes, en suggérant un partenariat pour la Turquie, une façon d'enterrer très diplomatiquement un processus d'adhésion auquel personne ne semble vraiment croire de part et d'autre de la Méditerranée, ni les 28 en froid avec la Turquie, ni même la majorité de la population turque, car quand on les interroge, beaucoup de Turcs disent en effet qu'aujourd'hui, avec presque 7% de croissance, la Turquie n'a pas besoin de se plier à des normes européennes dont elle ne veut pas pour plaire à une Europe qui n'a jamais vraiment voulu, au fond, lui ouvrir grand ses portes.
Allez, un petit peu de douceur pour refermer ce journal. Nous sommes en effet le week-end de l'épiphanie, Eric, et donc de la galette des rois. Alors tant pis pour tous ceux qui ont pris la résolution de manger moins, ou en tout cas plus faire léger régime. En ce début d'année, oui, faire régime en l'occurrence. Eh bien, les galettes sont là. Mais savez-vous ce que vous payez réellement en faisant l'achat de l'une de ces galettes? Réponse dans ce reportage de Philippe Lefebvre dans l'atelier d'une célèbre pâtisserie parisienne.
Dans cet atelier discret du nord de Paris, on prépare en ce moment les 2 à 3 000 galettes qui vont se vendre essentiellement durant les 10 prochains jours dans les 3 boutiques parisiennes de l'enseigne. L'équipe d'Arnaud Dupuis, le chef pâtissier, est un peu en retard, car fabriquer des galettes, et oui, ça prend du temps.
C'est un processus assez long parce qu'il faut préparer la pâte, donc ça met à peu près 2 jours de préparation parce qu'on fait 2 pétrissages. Donc si on part de zéro, avant qu'elle soit dans le four, il faut au moins, on va dire, 72 heures. Quoi.
Cette galette pour 6 personnes sera vendue 31 € et entre la matière première, les frais de personnel et la fève, l'entreprise peut compter sur une marge de 3 €. On est donc très loin de la dizaine d'euros de marge que peuvent dégager certains boulangers de quartier sur une galette vendue une 20aine d'euros. Et Daniel Mercier, le propriétaire de la pâtisserie des rêves, nous met en garde. Attention aux galettes industrielles vendues en grande surface à moins de 10 €. Elles sont élaborées avec des matières grasses autres que le beurre et surtout avec de faux produits.
Vous avez beaucoup d'autres choses que de l'amande qui rentrent dans la poudre d'amande ou dans cette crème d'amande. Vous pouvez trouver du noyau d'abricot, du noyau de pêche ou encore bien d'autres substituts.
Enfin, sachez que vous paierez de toute façon vos galettes un peu plus chères cette année car la hausse du prix du beurre a provoqué une augmentation de 37% du prix de la pâte feuilletée.
Voilà, et en attendant qu'il trouve la fève, eh bien, je vous laisse en compagnie du roi de cette matinale, Éric Delvaux, et de sa reine, Patricia Martin.
J'ai choisi la fève, j'ai eu la fève et j'ai choisi ma reine, c'est effectivement...
C'est une jolie couronne.
Patricia Martin. C'était le journal de Serge Martin.